Téléréunion, quelques conseils. Je voulais écrire un article sur le télétravail, mais il en existe déjà plein qui sont tous très bons. Sur les téléréunions, moins. Or, nous en avons bien besoin en ce moment. Je m'aperçois que de nombreuses personnes avec qui je travaille ont souvent l'expérience d'être à plusieurs dans la même salle, tandis que je suis à distance au téléphone. Donc, ça maugré, ça parle ensemble, ça rigole, et le signal est en partie perdu, mais bon, on s'en arrange. Dans la vraie vie, quand on papote en terrasse, on n'entend pas tout non plus après tout. Là, les gens sont tous au téléphone, et déjà on progresse sur l'intelligibilité. Ils comprennent très rapidement que s'ils entendent mal leurs collègues, c'est sans doute que les collègues les entendent mal aussi. J'ai la chance de travailler depuis de nombreuses années dans une sphère qui gravite autour du handicap, et on y acquiert des méthodes accessibles qui rendent la discussion plus inclusive. J'ai dit accessible et inclusive dans la même phrase, je gagne une médaille au chocolat, non ? En effet, mettez dans une conférence une personne malentendante et une personne sourde accompagnée d'un ou une vélotypiste ou d'un ou une interprète en langue des signes, et vous apprenez rapidement les bases d'une communication téléphonique accessible. 1. Une seule personne parle à la fois. Souvent, les gens sont enthousiastes ou pressés. C'est super, c'est une bonne chose, mais là, il va falloir se discipliner un peu. À l'école, on lève la main. C'est enquiquinant, mais ça limite le bazar. C'est comme ça, et on s'y est fait. Certains outils de conférence téléphonique permettent, via un petit bouton « lever la main », de dire que vous pouvez parler, et des fois ça ne marche pas, et des fois ça n'existe pas. Alors on fait comment ? Le plus simple est de désigner un président ou une présidente de séance qui dit qui doit parler. Quand c'est une réunion d'équipe, c'est simple, c'est le chef qui organise, c'est à lui que revient le rôle très rapidement. On le voit, les gens écoutent le chef, c'est pas plus mal après tout, vu que c'est lui ou elle le chef. Quand c'est une discussion scolaire, soit le ou la prof qui organise prend le rôle, soit il ou elle désigne, pourquoi pas, un ou une élève pour présider. Notez que c'est chouette, ça permet d'apprendre la démocratie participative en passant. Le président de séance ou la présidente de séance n'est pas la personne qui décide, c'est elle qui organise le tour de parole. Et s'il n'y a pas de président de séance, attendons notre tour. C'est frustrant, mais c'est comme faire la queue à la boulangerie, on n'a pas trop le choix si on veut que ça se passe bien. Mon collègue Bruno ajoute, lorsque la fonction n'existe pas, certains groupes de normalisation utilisent simplement la fenêtre de chat pour lever la main en tapant RH pour raise hand et le président de séance donne la parole en fonction de cette information. 2. Annoncer son prénom quand on parle. Les profs le savent, plein d'élèves ont la même voix. Eh bien, quand on devient adulte, c'est pareil, les voix ont une grande chance de se ressembler. Souvent, en réunion, je ne sais pas qui parle, même avec des gens de mon équipe. Et si c'est une réunion avec des gens que je ne connais pas, c'est encore pire. Quand vous faites une réunion avec des personnes sourdes dans la même pièce, l'interprète en langue des signes désigne la personne qui parle, mais au téléphone, eh bien vous dites votre nom, et l'interprète peut donc l'indiquer à la personne sourde. Et s'il n'y a pas de personne sourde dans la réunion, remontons d'un paragraphe et relisons-le. Il vous suffit de vous présenter chaque fois que vous prenez la parole. Par exemple, mon collègue Gilles dit juste Gilles quand il commence. C'est un peu comme un dialogue qu'on lit à l'écran, où le nom de la personne est inscrit avant chaque réplique. Moi, je ne suis pas aussi habituée que lui, alors je dis c'est Stéphane. Oui, ça fait deux mots au lieu d'un, c'est épuisant, m'en parlez pas ma bonne dame. Depuis quelques jours, je me demande de plus en plus systématiquement à mes collègues de le faire, et ça vient progressivement, et je leur en suis reconnaissant. 3. Ouvrir une fenêtre de chat en parallèle pour mieux comprendre, ou en bon français, un back channel. Quand une personne parle, on peut ne pas comprendre des mots dans sa phrase, pour plusieurs raisons. Une petite coupure du signal téléphonique, un défaut d'articulation, un nom de famille jamais entendu, et ça franchement quand on devient malentendant, c'est un cas très très fréquent. Pour moi, c'est à chaque réunion téléphonique désormais. Ça peut aussi être une fin de phrase dans sa barbe, un bruit autour. Dans ce cas, c'est embêtant d'interrompre la personne systématiquement pour dire « t'as dit bouffe marque » ou un nom comme ça. Oui, généralement, quand je ne comprends pas, j'essaie de donner une forme phonétique à ce que j'ai entendu, mais c'est souvent des mots d'une langue qui n'existe pas encore. J'ai pas compris, tu peux redire ? De temps en temps aussi, il nous manque des éléments pour mieux comprendre le contexte. Par exemple, l'autre jour, une personne parle d'Olivier. Mais Olivier qui ? Ce n'est pas un prénom rare, je n'ai pas su de qui en parler. Ouvrez un canal de chat sous-titre et connectez-vous tous dessus. Ainsi, je peux poser une question à l'écrit et quelqu'un qui a compris peut m'écrire ce que je n'ai pas compris, sans faire répéter la personne qui parle, sans rompre le flux de la discussion. Je n'ai plus l'air du professeur Tournesol et je n'ai plus l'impression d'être un vieux relou. Dans les cas précédents, j'aurais pu écrire « Bouffemark » avec un point d'interrogation ou « Olivier qui ?» sans déranger personne. À noter, le vrai truc épatant, c'est ce que font les gens de Paris Web. Toutes les réunions sont scribed, ça veut dire qu'une personne prend le rôle du scribe, comme au temps ancien, et note tout ce qui se dit. C'est très pratique. Quand j'ai mal à mes oreilles, je peux participer à une discussion sans même devoir l'écouter avec mes oreilles. Et j'ai même le droit de voter pour les décisions. 4. Porter sa voix. Une des premières choses qu'apprennent les gens qui se destinent à devenir acteurs de théâtre, c'est de porter la voix. C'est simple, quand je parle, ma voix est quelque part autour de mon larynx. Le larynx, c'est la zone dans la gorge d'où sortent les sons. Or, c'est bien si je suis à 1 mètre de vous, c'est insuffisant si je suis à l'autre bout d'une salle de réunion, d'une salle de classe ou à l'autre bout du fil. Porter sa voix, c'est s'imaginer que le son ne sort pas de ma gorge, mais de devant moi, à 1 ou 2 mètres. Si je m'applique, je vais parler plus fort, et en bonus, je vais peut-être même mieux articuler pour me faire comprendre. Portez votre voix quand vous parlez, même si vous savez que le micro de votre téléphone n'est pas loin. Je vous jure que ça change tout. J'en profite pour dire que si vous pouvez ralentir votre débit et vous appliquer pour bien articuler, ce sera encore mieux. Franchement, au début, vous vous sentirez bête, un peu comme quand deux Français parlent et qu'un Anglais est présent et qu'il ne parle pas français. On se sent bête de discuter en anglais entre deux Français, pourtant c'est évidemment ce qu'il faut faire. Mais ça vient vite, et au bout d'un moment c'est un automatisme, vous le ferez sans y penser. 5. Couper son micro. Ça, c'est le truc rigolo qu'on oublie tout le temps, si je ne parle pas, je coupe mon micro. Ça évite les bruits parasites. Vous vous grattez la barbe, quelqu'un parle à côté de vous, et ça crée un brouhaha sur la réunion. On évite aussi les gaffes. Ah quel con, j'ai vu son mot de passe. Oh non, pardon, je parlais pas de toi. Je vous promets que quand on travaille à la maison, on a tendance à commenter plein de choses à voix haute. Souvent, ce ne sont que des petits bruits, par exemple, de respiration. Mais quand on est malentendant, ou au téléphone, quand on est au téléphone, chaque bruit devenant synthétique, c'est un tout petit peu comme ce qu'on vit quand on porte des appareils. Pour vous donner une idée, les premières semaines avec mes appareils, j'entendais tout comme si j'avais mis des gobelets en plastique sur mes oreilles. Notre cerveau a plus de mal à faire le tri entre ce qui est du bruit, un truc pas voulu, et ce qui est du signal, l'information qu'on veut faire passer. Autant faciliter le travail des autres personnes qui participent à cette réunion téléphonique, ça réduit un petit peu leur fatigue aussi. 6. Décrire l'écran. Une dernière petite chose. Si vous partagez votre écran, expliquez ce qu'on est censé y voir. Les partages d'écran, c'est souvent long à se rafraîchir, et vous n'êtes pas à l'abri d'être en réunion avec une personne aveugle ou malvoyante, ou un peu plus avancée en âge, ou qui n'a pas réussi à vous rejoindre sur la télé-réunion. Elle a le son, mais pas l'image. Donc, plutôt que de dire « on a ça là », dites « j'ai doublé l'épaisseur de la bordure orange sur le lien ». Y a plus qu'à. Voilà, merci d'avoir bien écouté patiemment sans m'interrompre. Je vous écoute.